4. Janvier a été dur. Pas de travail, pas de pain, pas de feu à la maison. Les Morisseaux ont crevé la misère. La femme est blanchisseuse, le mari est maçon. Ils habitent au Batignolles, rue Cardinet, dans une maison noire qui empoisonne le quartier. Leur chambre au 5e est si délabrée que la pluie entre par les fentes du plafond. Encore ne se plaindrait-ils pas si leur petit Charlot, un gamin de 10 ans, n'avait besoin d'une bonne nourriture pour devenir un homme. L'enfant est chétif, un rien le met sur le flanc. Lorsqu'il allait à l'école, s'il s'appliquait en voulant tout apprendre d'un coup, il revenait malade. Avec ça très intelligent, un crapaud trop gentil, qui a une conversation au-dessus de son âge. Les jours où ils n'ont pas de pain à lui donner, les parents pleurent comme des bêtes. D'autant plus que les enfants meurent ainsi que des mouches du haut en bas de la maison tant c'est malsain. On casse la glace dans les rues. Même le père a pu se faire embaucher. Il déblaye les ruisseaux à coups de pioche. Et le soir, il rapporte 40 sous. En attendant que la bâtisse reprenne, c'est toujours de quoi ne pas mourir de faim. Mais un jour, l'homme en rentrant trouve Charlot couché. La mère ne sait ce qu'il a. Elle l'avait envoyé à Courcelles, chez sa tante, qui est fripière, voir s'il ne trouverait pas une veste plus chaude que sa blouse de toile dans laquelle il grelotte. Sa tante n'avait que de vieux paletots d'homme trop larges, et le petit rentrait tout frissonnant, l'air ivre, comme s'il avait bu. Maintenant, il est très rouge sur l'oreiller, il dit des bêtises, il croit qu'il joue aux billes, et il chante des chansons. La mère a pendu un lambeau de châle devant la fenêtre pour boucher un carreau cassé. En haut, il ne reste que 2 vitres libres qui laissent pénétrer le gris livide du ciel. La misère a vidé la commode. Tout le linge est au Mont-de-Piété. Un soir, on a vendu une table et 2 chaises. Charlot couchait par terre, mais depuis qu'il est malade, on lui a donné le lit et encore y est-il très mal, car on a porté poignée à poignée la laine du matelas chez une brancanteuse des 2000 livres à la fois pour 4 ou 5 sous. À 7 heures, ce sont le père et la mère qui couchent dans un coin sur une paillasse dont les chiens ne voudraient pas. Cependant, tous deux regardent Charlot sauter dans le lit. Qu'a-t-il donc, ce mioche, à battre la campagne? Peut-être bien qu'une bête l'a mordu ou qu'on lui a fait boire quelque chose de mauvais. Une voisine, Madame Bonnet, est entrée, et après avoir flairé le petit, elle prétend que c'est un froid et chaud. Elle s'y connaît, elle a perdu son mari dans une maladie pareille. La mère pleure en serrant Charlot entre ses bras. Le père sort comme un fou et court chercher un médecin. Il en ramène un, très grand, l'air pincé, qui écoute dans le dos de l'enfant, lui tape sur la poitrine sans dire une parole. Puis il faut que Madame Bonnet aille prendre chez elle un crayon et du papier pour qu'il puisse écrire son ordonnance. Quand il se retire, toujours muet, la mère l'interroge d'une voix étranglée. « Qu'est-ce que c'est, monsieur ?»« Une pleurésie, » répond-il d'un ton bref, sans explication. Puis il demande à son tour, « Elle vous inscrit au bureau de bienfaisance ?»« Non, monsieur, nous étions en notre aise l'été dernier, c'est l'hiver qui nous a tués. »« Tant pis, tant pis. » Et il promet de revenir. Madame Bonnet prête 20 sous pour aller chez le pharmacien. Avec les 40 sous de Morisseau, on a acheté 2 livres de bœuf, du charbon de terre et 2 de la chandelle. Cette première nuit se passe bien. On entretient le feu. Le malade, comme endormi par la grosse chaleur, ne cause plus. Ses petites mains brûlent. En le voyant écrasé sous la fièvre, les parents se tranquillisent. Et le lendemain, il reste hébété, épris d'épouvante, lorsque le médecin hoche la tête devant le lit avec la grimace d'un homme qui n'a plus d'espoir. Pendant 5 jours, aucun changement ne se produit. Charlot dort assommé sur l'oreiller. Dans la chambre, la misère qui souffle plus fort semble entrer avec le vent par les trous de la toiture et de la fenêtre. Le deuxième soir, on a vendu la dernière chemise de la mère. Le troisième, il a fallu retirer encore des poignées de laine sous le malade pour payer le pharmacien. Puis, tout a manqué. Il n'y a plus rien eu. Morisseau casse toujours la glace. Seulement, ces 40 sous ne suffisent pas. Comme ce foie rigoureux peut tuer Charlot, il souhaite le dégel, tout en le redoutant. Quand il part au travail, il est heureux de voir les rues blanches. Puis il songe aux petits qui agonisent là-haut, et il demande ardemment un rayon de soleil, une tiédeur de printemps balayant la neige. S'ils étaient seulement inscrits au bureau de bienfaisance, ils auraient le médecin et les remèdes pour rien. La mère s'est présentée à la mairie, mais on lui a répondu que les demandes étaient trop nombreuses, qu'elle devait attendre. Pourtant, elle a obtenu quelques bons de pain. Une dame charitable lui a donné 5 francs. Ensuite, la misère a recommencé. Le cinquième jour, Morisseau apporte sa dernière pièce de 40 sous. Le dégel est venu, on l'a remercié. Alors, c'est la fin de tout. Le poêle reste froid, le pain manque, on ne descend plus les ordonnances chez le pharmacien. Dans la chambre ruisselante d'humidité, le père et la mère grelottent en face du petit qui râle. Madame Bonnet n'entre plus les voir parce qu'elle est sensible et que ça lui fait trop de peine. Les gens de la maison passent vite devant leur porte. Par moments, la mère, prise d'une crise de larmes, se jette sur le lit, embrasse l'enfant comme pour le soulager et le guérir. Le père, imbécile, reste des heures devant la fenêtre, soulevant le vieux châle, regardant le dégel ruisseler, l'eau tomber des toits à grosses gouttes et noircir la rue. Peut-être ça fait-il du bien à Charlot. Un matin, le médecin déclare qu'il ne reviendra pas, l'enfant est perdu. « C'est ce temps humide qu'il a achevé, » dit-il. Morisseau montre le poing au ciel. « Tous les temps font donc crever le pauvre monde. Il gelait et cela ne valait rien. Il dégèle et cela est pis encore. Si la femme voulait, ils allumeraient un boisseau de charbon. » Ils s'en iraient tous les trois ensemble, ce serait plus vite fini. Pourtant, la mère est retournée à la mairie. On a promis de leur envoyer des secours, et ils attendent. Quelle affreuse journée! Un froid noir tombe du plafond. Dans un coin, la pluie coule. Il faut mettre un seau pour recevoir les gouttes. Depuis la veille, ils n'ont rien mangé. L'enfant a bu seulement une tasse de tisane que la concierge a montée. Le père, assis devant la table, la tête dans les mains, demeure stupide, les oreilles bourdonnantes. À chaque bruit de pas, la mère court à la porte, croit que ce sont enfin les secours promis. 6 heures sonnent, rien n'est venu. Le crépuscule est boueux, lent et sinistre comme une agonie. Brusquement, dans la nuit qui augmente, Charlot balbutie des paroles entrecoupées. « Maman, maman !» La mère s'approche, reçoit au visage un souffle fort. Elle n'entend plus rien. Elle distingue vaguement l'enfant, la tête renversée, le cou raidi. Elle crie affolée, suppliante. « Oh, de la lumière, vite de la lumière, mon Charlot, parle-moi !» Il n'y a plus de chandelle. Dans sa hâte, elle frotte des allumettes, les casse entre ses doigts, puis de ses mains tremblantes, elle tâte le visage de l'enfant. « Ah, mon Dieu, il est mort! Dis donc, Morisso, il est mort. Le père lève la tête aveuglée par les ténèbres. Eh bien, que veux-tu, il est mort. Ça vaut mieux. Au sanglot de la mère, Madame Bonnet s'est décidée à paraître avec sa lampe. Alors, comme les deux femmes arrangent proprement Charlot, on frappe. Ce sont les secours qui arrivent, 10 francs des bons de pain et de viande. Morisseau rit d'un air imbécile, en disant qu'il manque toujours le train au bureau de bienfaisance. Et quel pauvre cadavre d'enfant, maigre, léger comme une plume. On aurait couché sur le matelas un moineau tué par la neige et ramassé dans la rue qui ne ferait pas un tas plus petit. Pourtant, Madame Bonnet, qui est redevenue très obligeante, explique que ça ne ressuscitera pas Charlot de jeûner à côté de lui. Elle offre d'aller chercher du pain et de la viande en ajoutant qu'elle rapportera aussi de la chandelle. Il la laisse faire. Quand elle rentre, elle met la table, sert des saucisses toutes chaudes. Et les Morisseaux affamés mangent gloutonnement près du mort, dont on aperçoit dans l'ombre la petite figure blanche. Le poil ronfle, on est très bien. Par moments, les yeux de la mère se mouillent, de grosses larmes tombent sur son pain. Comme Charlot aurait chaud, comme il mangerait volontiers de la saucisse. Madame Bonnet veut veiller à toute force. Vers 1 heure, lorsque Morisseau a fini par s'endormir, la tête posée sur le pied du lit, les deux femmes font du café. Une autre voisine, une couturière de 18 ans, est invitée, et elle apporte un fond de bouteille d'eau-de-vie pour payer quelque chose. Alors les trois femmes boivent leur café à petits coups, en parlant tout bas, en se contant des histoires de morts extraordinaires. Peu à peu, leur voix s'élève, leurs cancans s'élargissent, elles causent de la maison, du quartier, d'un crime qu'on a commis rue Nollet. Et parfois, la mère se lève, vient regarder Charlot comme pour s'assurer qu'il n'a pas remué. La déclaration n'ayant pas été faite le soir, il leur faut garder le petit le lendemain toute la journée. Ils n'ont qu'une chambre, ils vivent avec Charlot, mangent et dorment avec lui. Par instant, ils l'oublient, puis quand ils le retrouvent, c'est comme s'ils le perdaient une fois encore. Enfin, le surlendemain, on apporte la bière, pas plus grande qu'une boîte à joujoux, 4 planches mal rabotées et fournies gratuitement par l'administration sur leur certificat d'indigence. Et en route, on se rend à l'église en courant. Derrière Charlot, il y a le père avec 2 camarades rencontrés en chemin, puis la mère, Madame Bonnet, et l'autre voisine, la couturière. Ce monde patauge dans la crotte jusqu'à mi-jambe. Il ne pleut pas, mais le brouillard est si mouillé qu'il trempe les vêtements. À l'église, on expédie la cérémonie et la cour se reprend sur le pavé gras. Le cimetière est au diable, en dehors des fortifications. On descend l'avenue de Saint-Ouen, on passe la barrière, enfin on arrive. C'est un vaste enclos, un terrain vague, fermé de murailles blanches. Des herbes y poussent, la terre remuée fait des bosses, tandis qu'au fond, il y a une rangée d'arbres maigres salissant le ciel de leurs branches noires. Lentement, le convoi avance dans la terre molle. Maintenant, il pleut. Et il faut attendre sous l'averse un vieux prêtre qui se décide à sortir d'une petite chapelle. Charlot va dormir au fond de la fosse commune. Le champ est semé de croix renversées par le vent, de couronnes pourries par la pluie, un champ de misère et de deuil, dévasté, piétiné, suant cet encombrement de cadavres qu'entasse la faim et le froid des faubourgs. C'est fini. La terre coule, Charlot est au fond du trou, et les parents s'en vont sans avoir pu s'agenouiller dans la boue liquide où ils enfoncent. Dehors, comme il pleut toujours, Morisseau, qui a encore 3 francs sur les 10 francs du bureau de bienfaisance, invite les camarades et les voisins à prendre quelque chose chez un marchand de vin. On s'attable, on boit 2 litres, on mange un morceau de fromage de brie. Puis les camarades à leur tour perdent 2 autres litres, et quand la société rentre dans Paris, elle est très gaie. Cinq. Jean-Louis Lacour a 70 ans. Il est né à La Courteille, un hameau de 150 habitants perdu dans un pays de loups. En sa vie, il est allé une seule fois à Angers, qui se trouve à 15 lieues, mais il était si jeune qu'il ne se souvient plus. Il a eu 3 enfants, 2 fils, Antoine et Joseph, et une fille, Catherine. Celle-ci s'est mariée, puis son mari est mort et elle est revenue chez son père avec un petit de 12 ans, Jacquinet. La famille vit sur 5 ou 6 arpents, juste assez de terre pour manger du pain et ne pas aller tout nu. Quand ils boivent un verre de vin, ils l'ont sué. La Courteille est au fond d'un vallon avec des bois de tous les côtés qui l'enferment et la cachent. Il n'y a pas d'église, la commune est trop pauvre. C'est le curé des Cormier qui vient dire la messe, et comme on compte 2 bonnes lieues de chemin, il ne vient que tous les 15 jours. Les maisons, une vingtaine de masures branlantes, sont jetées le long de la grande route. Des poules grattent le fumier devant les portes. Lorsqu'un étranger passe, les femmes allongent la tête, tandis que les enfants, en train de se vautrer au soleil, se sauvent au milieu des bancs d'oies effarés. Jamais Jean-Louis n'a été malade. Il est grand et noueux comme un chêne. Le soleil l'a séché, a cuit et fendu sa peau, et il a pris la couleur, la rudesse et le calme des arbres. En vieillissant, il a perdu sa langue. Il ne parle plus, trouvant ça inutile. D'un pas long et entêté, il marche avec la force paisible des bœufs. L'année dernière, il était encore plus vigoureux que ses fils. Il réservait pour lui les grosses besognes silencieuses dans son champ qui semblait le connaître et trembler. Mais un jour, voici 2 mois, ses membres ont craqué tout d'un coup. Et il est resté 2 heures en travers d'un sillon ainsi qu'un tronc abattu. Le lendemain, il a voulu se remettre au travail, seulement ses bras s'en étaient allés. La terre ne lui obéissait plus. Ses fils hochent la tête. Sa fille tâche de le retenir à la maison. Il s'obstine et on le fait accompagner par Jacquinet pour que l'enfant crie si le grand-père tombe. Que fais-tu là, paresseux? Demande Jean-Louis au gamin qui ne le quitte pas. À ton âge, je gagnais mon pain. Mon grand-père, je vous garde, répond l'enfant. Ce mot donne une secousse au vieillard, il n'ajoute rien. Le soir, il se couche et il ne se relève plus. Quand les fils et la fille vont au champ le lendemain, ils entrent voir leur père qu'ils n'entendent pas remuer. Ils le trouvent étendu sur son lit, les yeux ouverts, avec un air de réfléchir. Il a la peau si dure et si tannée qu'on ne veut pas savoir seulement la couleur de sa maladie. Eh bien, père, ça va donc pas? Il grogne et dit non de la tête. Alors, vous ne venez pas, nous partons sans vous. Oui, il leur fait signe de partir sans lui. On a commencé la moisson, tous les bras sont nécessaires. Peut-être bien que si l'on perdait une matinée, un orage brusque emporterait les gerbes. Jacquinet lui-même suit sa mère et ses oncles. Le père Lacour reste seul. Le soir, quand les enfants reviennent, il est à la même place, toujours sur le dos, les yeux ouverts, avec son air de réfléchir. Alors, père, ça ne va pas mieux? Non, ça ne va pas mieux. Il grogne, il branle la tête. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui faire? Catherine a l'idée de mettre bouillir du vin avec des herbes. Mais c'est trop fort, ça manque de le tuer. Oh, Joseph dit qu'on verra le lendemain, et tout le monde se couche. Le lendemain, avant de partir pour la moisson, les fils et la fille restent un instant debout devant le lit. Décidément, le vieux est malade. Jamais il n'a vécu comme ça sur le dos. On devrait peut-être bien tout de même faire venir le médecin. L'ennui, c'est qu'il faut aller à Rougemont, 6 lieues pour aller, 6 lieues pour revenir, ça fait 12. On perdra tout un jour. Le vieux qui écoute les enfants s'agite et semble se fâcher. Il n'a pas besoin de médecin. Ça sert à rien et ça coûte. Alors vous ne voulez pas? Demande Antoine. Alors nous partons travailler? Sans doute qu'ils partent travailler. Ils ne le soulageraient pas, bien sûr, en restant là. La terre a plus besoin d'être soignée que lui. Les 3 jours se passent, les enfants vont chaque matin au champ. Jean-Louis ne bouge point tout seul, buvant à une cruche quand il a soif. Il est comme un de ces vieux chevaux qui tombent de fatigue dans un coin et qu'on laisse mourir. Il a travaillé 60 ans, il peut bien s'en aller, puisqu'il n'est plus bon à rien qu'à tenir de la place et à gêner le monde. Les enfants eux-mêmes n'ont pas une grande douleur. La terre les a résignés à ces choses. Ils sont trop près d'elle pour lui en vouloir de reprendre le vieux. Un coup d'œil le matin, un coup d'œil le soir, ils ne peuvent pas faire davantage. Si le père s'en relevait tout de même, ça pourrait qu'il est rudement bâti. S'il meurt, c'est qu'il avait la mort dans le corps, et tout le monde sait que lorsqu'on a la mort dans le corps, rien ne l'en déloge, pas plus les signes de croix que les médicaments. Une vache encore, ça se soigne. Jean-Louis, le soir, interroge d'un regard les enfants sur la moisson. Quand il les entend compter les gerbes, se féliciter du beau temps qui favorise la besogne, il a une joie dans les yeux. Une fois encore, on parle d'aller chercher le médecin. Mais le vieux s'emporte et on craint de le tuer plus vite si on le contrarie. Il fait seulement demander le garde champêtre à un ancien camarade. Le père Nicolas est son aîné car il a eu 75 ans à la Chandeleur. Lui reste droit comme un peuplier. Il vient et s'assoit près de Jean-Louis d'un air sérieux. Jean-Louis, qui ne peut plus parler, le regarde de ses petits yeux pâlis. Le père Nicolas le regarde aussi, n'ayant rien à lui dire. Et ces deux vieillards restent face à face pendant 1 heure, sans prononcer une parole, heureux de se voir, heureux de se rappeler sans doute les choses bien loin dans leurs jours d'autrefois. C'est ce soir-là que les enfants, au retour de la moisson, trouvent Jean-Louis mort, étendu sur le dos, raide et les yeux en l'air. Oui, le vieux est mort, sans remuer un membre. Il a soufflé son dernier souffle droit devant lui, une haleine de plus dans la vaste campagne. Comme les bêtes qui se cachent et se résignent, il n'a pas même dérangé un voisin, il a fait sa petite affaire tout seul. « Le père est mort !» dit Joseph en appelant les autres. Et tous, Antoine, Catherine, Jacquinet, répètent « Ah, le père est mort !» Ça les étonne pas. Jacquinet allonge curieusement le cou. La femme tire son mouchoir, les deux garçons marchent sans rien dire, la face grave et blêmie sous le hâle. Il a tout de même joliment duré, il était solide, le vieux père. Cette idée console les enfants, ils sont fiers de la solidité de la famille. La nuit, on veille le père jusqu'à 11 heures, puis tout le monde s'aide au sommeil. Et Jean-Louis dort seul encore, avec son visage fermé, qui semble toujours réfléchir. Dès le petit jour, Joseph part pour les Cormiers afin d'avertir le curé. Cependant, comme il y a encore des gerbes à rentrer, Antoine et Catherine s'en vont tout de même au champ le matin en laissant le corps à la garde de Jacquinet. Le petit s'ennuie avec le vieux qui ne remue seulement pas. Et il sort par moments sur la route, lance des pierres aux moineaux, regarde un colporteur étalant des foulards devant deux voisines. Puis quand il se souvient du grand-père, il rentre vite, s'assure qu'il n'a point bougé et s'échappe de nouveau pour voir deux chiens se battre. Comme la porte reste ouverte, les poules entrent, se promènent tranquillement, fouillant à coups de bec le sol battu. Un coq rouge se dresse sur ses pattes, allonge le cou, arrondit son œil de braise, inquiet de ce corps dont il ne s'explique pas la présence. C'est un coq prudent et sagace, qui sait sans doute que le vieux n'a pas l'habitude de rester au lit après le soleil levé. Et il finit par jeter son cri sonore de clairon, chantant la mort du vieux, tandis que les poules ressortent une à une en gloussant et en piquant la terre. Le curé des Cormiers ne peut venir qu'à 5 heures. Depuis le matin, on entend le charron qui scie du sapin et enfonce des clous. Ceux qui ignorent la nouvelle disent « Tiens, c'est donc que Jean-Louis est mort ?» parce que les gens de la Courteille connaissent bien ces bovis-là. Antoine et Catherine sont revenus, la moisson est terminée. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont mécontents, car depuis 10 ans, le grain n'a pas été si beau. Toute la famille attend le curé. On s'occupe pour prendre patience. Catherine met la soupe au feu, Joseph tire de l'eau, on envoie Jacquinet voir si le trou a été fait au cimetière. Enfin, à 6 heures seulement, le curé arrive. Il est dans une carriole avec un gamin qui lui sert de clerc. Il descend devant la porte de la cour, sort d'un journal son étoffe et son surplis, puis il s'habille en disant « Dépêchons-nous, il faut que je sois rentré à 7 heures. » Pourtant, personne ne se presse. On est obligé d'aller chercher les deux voisins qui doivent porter le défunt sur la vieille civière de bois noir. Comme on va partir enfin, Jacquinet accourt et crie que le trou n'est pas fini, mais qu'on peut venir tout de même. Alors le prêtre marche le premier en lisant du latin dans un livre. Le petit clerc qui le suit tient un vieux bénitier de cuivre bossué dans lequel il trempe un goupillon. C'est seulement au milieu du village qu'un autre enfant sort de la grange où l'on dit la messe tous les 15 jours et prend la tête du cortège avec une croix emmanchée au bout d'un bâton. La famille est derrière le corps. Peu à peu, tous les gens du village se joignent à elle. Une queue de galopin nu-tête débraillée, sans souliers, ferme la marche. Le cimetière se trouve à l'autre bout de la Courteille. Aussi les deux voisins lâchent-ils la civière à 3 reprises. Ils soufflent pendant que le convoi s'arrête et l'on repart. On entend le piétinement des sabots sur la terre dure. Quand on arrive, le trou en effet n'est pas terminé. Le fossoyeur est encore dedans et on le voit qui s'enfonce puis qui reparaît régulièrement à chaque pelletée de terre. Une simple haie entoure le cimetière. Des ronds sont poussés où les gamins viennent les soirs de septembre manger des mûres. C'est un jardin en rase campagne. Au fond, il y a des groseilliers énormes, un poirier dans un coin agrandi comme un chêne, une courte allée de tilleuls au milieu fait un ombrage sous lequel les vieux en été fument leurs pipes. Le soleil brûle, des sauterelles s'effarent, des mouches d'or ronflent dans les frissons de la chaleur. Le silence est tout frémissant de vie. La sève de cette terre grasse coule avec le sang rouge des coquelicots. On a posé le cercueil près du trou. Le gamin qui porte la croix vient la planter au pied du mort, pendant que le prêtre, debout à la tête, continue de lire du latin dans son livre. Mais les assistants s'intéressent surtout au travail du fossoyeur. Ils entourent la fosse, suivent l'appel des yeux, et quand ils se retournent, le curé s'en est allé avec les deux enfants. Il n'y a plus là que la famille qui attend d'un air de patience. Enfin, la fosse est creusée. C'est assez profond, va, crie l'un des paysans qui ont porté le corps. Et tout le monde aide pour descendre le cercueil. Le père Lacour sera bien dans ce trou. Il connaît la terre et la terre le connaît. Ils feront bon ménage ensemble. Voici près de 60 ans qu'elle lui a donné ce rendez-vous, le jour où il l'a entamé de son premier coup de pioche. Leur tendresse devait finir par là. La terre devait le prendre et le garder. Et quel bon repos! Il entendra seulement les pattes légères des oiseaux plier les brins d'herbe. Personne ne marchera sur sa tête. Il restera des années chez lui, sans qu'on le dérange. C'est la mort ensoleillée, le sommeil sans fin dans la paix des campagnes. Les enfants se sont approchés. Catherine, Antoine, Joseph ramassent une poignée de terre et la jettent sur le vieux. Jacquinet, qui accueillait des coquelicots, jette aussi son bouquet. Puis, la famille rentre manger la soupe, les bêtes reviennent des champs, le soleil se couche, une nuit chaude endort le village.